Chapitre 3 et 4 Israël dans le désert, image de l'Église dans le monde. Dieu au milieu de son peuple. Quel merveilleux spectacle présentait le camp d'Israël dans ce désert aride, où il n'y avait que désolation. Le regard de Dieu y reposait toujours. Sa présence était là, il habitait au milieu de son peuple. Sa demeure ne se trouvait pas au sein des splendeurs de l'Égypte, de la Syrie ou de Babylone. Sans doute, ces pays offraient aux yeux de l'homme tout ce qui, pour eux, avait de l'attrait. Les arts et les sciences y étaient cultivés. La civilisation avait atteint chez ces nations anciennes un degré très élevé. Mais, qu'on se le rappelle, l'Éternel n'était pas connu de ces peuples. Son nom ne leur avait jamais été révélé. Il n'habitait pas au milieu d'eux. Certes, il y avait là aussi d'innombrables témoignages de son pouvoir créateur. Il leur donnait du ciel, des pluies et des saisons fertiles, remplissant leur cœur de nourriture et de joie. Voir Acte 14, verset 17. De jour en jour et d'année en année, il répandait sur eux ses bénédictions et ses bienfaits. Mais ils ne le connaissaient pas et ne le cherchaient pas. Aucune de ces nations ne pouvait dire « Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. » Exode 15, verset 2. L'Éternel avait fixé sa demeure au sein de son peuple racheté et nulle part ailleurs. La rédemption est la base de l'habitation de Dieu au milieu des hommes. En dehors de la rédemption, la présence divine ne peut amener que la destruction de l'homme. Mais la rédemption étant connue, cette présence procure aux rachetés les plus hauts privilèges. La toute suffisance de Dieu face aux besoins du peuple dans le désert. Dieu avait élu domicile au milieu de son peuple Israël. Il était descendu du ciel non seulement pour le racheter d'Égypte, mais pour être son compagnon de voyage à travers le désert. Quelle pensée ! Le Dieu Très-Haut établissant sa demeure sur le sable du désert, et au sein même de son assemblée rachetée. En vérité, il n'y avait rien de pareil dans tout le vaste monde. C'est là qu'était cette armée de 600 000 hommes, outre les femmes et les enfants, dans un désert aride. Comment devait-il être nourri? Dieu était là. Comment l'ordre devait-il être maintenu au milieu d'eux? Dieu était là. Comment trouver leur chemin? Dieu était là. La présence de Dieu garantissait tout. Dieu était là. Tout est compris dans cette seule phrase. Dans l'arithmétique de la foi, Dieu est le seul facteur essentiel. Si toutes nos ressources sont dans le Dieu vivant, la question de nos besoins est résolue. Qu'étaient 600 000 hommes de pied pour le Dieu Tout-Puissant? Qu'étaient les besoins variés de leurs femmes et de leurs enfants? Au jugement de l'homme, c'était là des charges écrasantes. Représentez-vous cette immense armée commençant une marche qui devait se prolonger durant 40 ans, à travers un grand et terrible désert, dans lequel il n'y avait ni champ ni source d'eau. Comment devait-il être nourri? Ils n'avaient aucun moyen visible de subvenir à leurs besoins. Tout cela vaut la peine d'être sérieusement pesé. Mais il faut que nous l'examinions en la présence de Dieu. Il ne sert à rien d'essayer de résoudre ce problème par un calcul humain. Ce n'est que la foi qui peut le résoudre, et cela seulement sur la base de la parole du Dieu vivant. Introduisez Dieu, et vous n'aurez besoin d'aucun autre élément pour obtenir une réponse. Dieu était au milieu de son peuple. Il était là dans toute sa grâce et sa miséricorde pour les siens, là dans sa parfaite connaissance de leurs besoins et des difficultés de leur chemin, là dans sa puissance et ses ressources sans bornes, pour faire face à leurs difficultés et pour subvenir à leurs besoins. À la fin de leur longue pérégrination dans le désert, Moïse peut rendre ce témoignage « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de ta main. Il a connu ta marche par ce grand désert. Pendant ces 40 ans, l'Éternel, ton Dieu, a été avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Et encore, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. » Deutéronome 2, verset 7 et 8, verset 4. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteints. 1 Corinthiens 10, verset 11. Nous pouvons donc nous approcher, contempler ce merveilleux spectacle et chercher à recueillir les précieuses leçons qu'il nous donne. Voyez ce mystérieux camp dans le désert composé, comme nous l'avons dit, de guerriers, d'ouvriers et d'adorateurs. Quelle séparation d'avec toutes les nations du monde! Quel total dénuement! Quelle situation! Quelle absolue dépendance de Dieu! Ils n'avaient comme nourriture et comme boisson que ce qu'ils recevaient de jour en jour de la main même de Dieu. Ils n'avaient pas de provision pour le lendemain. Il n'y avait aucune ressource visible, rien sur quoi l'homme puisse compter. Mais Dieu était là, et pour la foi il n'en faut pas davantage. Ils étaient obligés de dépendre entièrement de Dieu. C'était l'unique et grande réalité. La foi ne reconnaît rien de réel, rien de solide, rien de vrai, que le seul Dieu vivant, véritable, éternel. Elle regarde au ciel et y trouve toutes ses ressources. Il en est de l'Église dans le monde comme il en était du camp d'Israël dans le désert. Il n'y avait pas un seul besoin, de quelque nature qu'il puisse être, pour lequel la présence de Dieu n'était pas une réponse entièrement suffisante. Les nations avoisinantes pouvaient regarder et s'étonner. Elles pouvaient se poser bien des questions et chercher à savoir comment une pareille armée était nourrie, vêtue et maintenue en ordre. Très certainement, elles n'avaient pas Dieu pour voir comment cela pouvait se faire. Elles ne connaissaient pas l'Éternel, le Dieu des Hébreux. L'assemblée séparée du monde. Il en est maintenant ainsi de l'assemblée de Dieu dans ce monde que l'on peut vraiment appeler un désert moral. Considérée au point de vue de Dieu, cette assemblée n'est pas du monde. Elle en est entièrement séparée. Elle est aussi complètement en dehors du monde que le camp d'Israël était en dehors de l'Égypte. Les flots de la mer Rouge s'étendaient entre ce camp et l'Égypte, et les eaux plus profondes de la mort du Christ séparent à jamais l'Église de ce présent siècle mauvais. Il est impossible de concevoir une séparation plus absolue. « Ils ne sont pas du monde, dit le Seigneur, comme moi je ne suis pas du monde. » Jean 17, verset 16. Nous sommes placés au milieu d'un désert moral, d'un vaste désert aride, où il n'y a rien qui puisse nous faire vivre. Il n'y a pas une seule goutte d'eau, pas un seul aliment qui puisse convenir aux rachetés de Christ dans toute l'étendue de ce monde. L'Église ici-bas est exposée à toutes sortes d'influences hostiles. Tout lui est contraire. Elle est au milieu de ce monde comme une plante exotique, une plante placée dans une région où le sol et l'atmosphère lui sont également contraires. Telle est l'Église dans le monde, une chose séparée, dépendante, sans défense, entièrement rejetée sur le Dieu vivant. Ce que le camp d'Israël était extérieurement, l'Église l'est moralement et spirituellement. Et ce que le désert était littéralement pour Israël, le monde l'est moralement et spirituellement pour l'Église de Dieu. Comme le désert n'était pas pour Israël un lieu de ressources et de jouissances, mais de danger et de fatigue, de même aussi le monde ne présente pas à l'Église des ressources ou des jouissances, mais des fatigues et des dangers. Il est bon de saisir ce fait dans toute sa puissance morale. L'assemblée de Dieu dans le monde, comme la congrégation de l'Éternel dans le désert, est entièrement remise aux soins du Dieu vivant. Nous parlons ici au point de vue divin. Nous parlons de ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu. Nous ne nous occupons maintenant que de l'idée normale, vraie, divine de l'assemblée de Dieu dans le monde. Comme il y avait autrefois un camp, une congrégation dans le désert, ainsi il y a maintenant dans le monde l'Église de Dieu, le corps de Christ. Sans doute, les nations du monde ne connaissaient guère cette congrégation de jadis et ne s'en souciaient pas, mais cela n'affectait en rien le grand fait de son existence. De même aujourd'hui, les hommes du monde ne connaissent guère l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, et ne s'en soucient pas, mais cela n'affecte en aucune façon cette grande vérité que l'assemblée de Dieu est réellement présente dans le monde. Elle y a été depuis que le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Il est vrai que la congrégation d'Israël avait ses épreuves, ses combats, ses peines, ses tentations, ses difficultés innombrables et sans nom, réclamant les ressources variées qui étaient en l'Éternel. Mais malgré toutes ces choses, malgré la faiblesse, le péché, la rébellion, la contestation, il y avait un peuple comportant quelque 3 millions d'âmes voyageant dans un désert, dépendant entièrement d'un bras invisible, guidé et soigné par le Dieu éternel, dont l'œil n'était jamais un seul instant détourné de lui. Dieu habitait véritablement au milieu de son peuple et ne l'abandonnait jamais, malgré son incrédulité, son oubli, son ingratitude et sa rébellion. Il était là pour le soutenir et le conduire, le garder et le conserver jour et nuit. Il le nourrissait du pain du ciel chaque jour et il faisait jaillir pour lui l'eau du rocher. C'était assurément un fait prodigieux, un profond mystère. Dieu avait une congrégation dans le désert, tenue à part de toutes les nations environnantes, séparée pour être à lui. Elle était soutenue d'une manière qui déjouait et confondait la raison humaine. Or, c'était un type. De quoi ? D'une chose qui a existé durant près de 20 siècles, qui existe encore et qui existera jusqu'au moment où le Seigneur reviendra. C'est un type de l'Église de Dieu dans le monde. Elle passe dans ce monde comme Israël passait au travers du désert. Israël ne trouvait pas de ressources dans le désert, et l'Église de Dieu ne trouve pas de ressources dans le monde. Si elle en trouve, c'est qu'elle ne marche pas droitement avec son Seigneur. Israël n'était pas du désert, mais il le traversait. L'Église de Dieu n'est pas du monde, mais elle le traverse. Si nous sommes bien pénétrés de cette vérité, nous comprendrons mieux la place de complète séparation qui convient à l'Église comme corps et à chacun de ceux qui la composent en particulier. Les choses les plus brillantes et les plus attrayantes du monde sont à l'Église de Dieu ce qu'étaient à Israël les serpents, les scorpions et les 1000 autres dangers du désert. Au milieu d'une chrétienté en ruine. Telle est la notion divine de l'Église, et c'est de cette notion que nous nous occupons maintenant. Hélas, combien elle est différente de ce qui se dit l'Église. Dieu a une Église dans le monde. Il y a maintenant sur la terre un corps, habité par l'Esprit et uni à Christ, la tête. Cette Église, ce corps, est composée de tous ceux qui croient vraiment au Fils de Dieu et qui sont unis en vertu du grand fait de la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas ici une affaire d'opinion, c'est un fait divin. L'Église est un corps existant, et nous en sommes membres si nous sommes croyants. Nous sommes actuellement dans cette relation, ayant été baptisés pour cela par le Saint-Esprit. C'est une chose aussi réelle que la naissance d'un enfant dans une famille. La naissance a eu lieu, la relation est formée, et nous n'avons qu'à la reconnaître et à nous conduire en conséquence. Dès le moment où une âme est née de nouveau et scellée du Saint-Esprit, elle fait partie du corps de Christ. Elle n'est plus une personne indépendante. Elle est membre d'un corps, précisément comme la main ou le pied est un membre du corps humain. Le croyant est membre du corps de Christ et ne peut être membre de quoi que ce soit d'autre. Comment mon bras pourrait-il être membre d'un autre corps ? Il y a une chose telle que l'Église de Dieu, au milieu de la ruine et du naufrage, de la lutte et de la discorde, de la confusion et des divisions, des sectes et des partis. C'est une vérité des plus précieuses, des plus pratiques et des plus efficaces. Nous sommes tout aussi tenus de reconnaître, par la foi, cette Église dans le monde que les Israélites étaient tenus de reconnaître, par la vue, le camp dans le désert. Il y avait un camp, une assemblée, et le vrai Israélite y appartenait. Il y a une Église, un corps, et le vrai chrétien en fait partie. Mais comment ce corps est-il organisé ? Par le Saint-Esprit, ainsi qu'il est écrit, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Comment est-il soutenu ? Par sa tête vivante, par le moyen de l'esprit et par la parole, selon ce que nous lisons. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée. Éphésiens 5, verset 29. N'est-ce pas assez ? Christ n'est-il pas suffisant ? Le Saint-Esprit ne suffit-il pas ? Les dons de l'Esprit ne sont-ils pas entièrement suffisants pour l'accroissement et le maintien de l'Église de Dieu ? Le fait de la présence de Dieu dans l'Église ne lui assure-t-il pas tout ce dont elle peut avoir besoin ? À toutes ces questions, la foi répond « oui » et le dit avec énergie et assurance. La raison humaine, en fait l'incrédulité, dit « non, nous avons en outre besoin d'un grand nombre de choses ». Ce qui est de Dieu subsiste. On objecte en effet que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient au temps des apôtres, que l'Église professante est tombée, que les dons ont cessé, que les glorieux jours du premier amour de l'Église ont disparu, et qu'il nous faut par conséquent adopter les meilleurs moyens qui sont en notre pouvoir pour l'organisation et le maintien de nos Églises. À tout cela, nous répondons : ni Dieu, ni Christ, la tête de l'Église, ni le Saint-Esprit n'ont failli. Ni un iota, ni un trait de lettre de la parole de Dieu ne sont tombés. Le vrai fondement de la foi est celui-ci : Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Il a dit : voici, je suis avec vous. Combien de temps ? Est-ce seulement durant les jours du premier amour, aussi longtemps que l'Église continuera d'être fidèle ? Non. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Matthieu 28, verset 20. Et il a dit aussi : sur ce roc, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, verset 18. Il y a maintenant une église ici-bas aussi réellement qu'il y avait autrefois un camp dans le désert. Et comme Dieu était dans ce camp, pour subvenir à tous les besoins du peuple, de même aussi il est maintenant dans l'église pour la gouverner, pour la diriger en toutes choses, ainsi qu'il est écrit « Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. » Éphésiens 2, verset 22. Cela est entièrement suffisant. Tout ce qu'il nous faut, c'est saisir par la simple foi cette grande réalité. Le nom de Jésus répond à tous les besoins de l'Église de Dieu, aussi bien qu'il répond au salut de l'âme. L'un est aussi vrai que l'autre. Où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Cela a-t-il cessé d'être vrai ? La présence de Christ ne suffit-elle pas entièrement à son Église ? Avons-nous besoin de faire des plans et toute espèce de travaux venant de nous-mêmes en matière d'Église ? Pas plus que pour le salut de l'âme. Que disons-nous aux pécheurs ? Confiez-vous en Christ. Que disons-nous aux croyants ? Confiez-vous en Christ. Que disons-nous à une assemblée de saints, petite ou nombreuse ? Confiez-vous en Christ. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour lui ? Le trésor de ses dons et de sa grâce est-il épuisé ? Ne peut-il pas fournir des dons pour le ministère ? Ne peut-il pas susciter des évangélistes, des pasteurs et des docteurs ? Ne peut-il pas faire parfaitement face à tous les divers besoins de son Église dans ce monde ? Qu'est-ce que la congrégation d'Israël avait à faire ? Regardez à l'Éternel. Pour tout, pour la nourriture, pour l'eau, pour le vêtement, pour la direction, pour la protection. Christ notre Seigneur est amplement suffisant, en dépit de tous nos manquements, de toute notre ruine et de toute notre infidélité. Il a envoyé le Saint-Esprit pour habiter avec et dans tous ses rachetés, pour en former un seul corps et pour les unir à leur tête vivante dans les cieux. Cet Esprit est la puissance de l'unité, de la communion, du ministère et du culte. Il ne nous a pas abandonnés, et il ne nous abandonnera jamais. Confions-nous en lui. Laissons-le agir. Soyons soigneusement en garde contre tout ce qui pourrait l'éteindre, l'entraver ou l'attrister. Reconnaissons-lui sa propre place dans l'assemblée, et abandonnons-nous en toute chose à sa direction et à son autorité. La ruine est trop palpable et trop manifeste pour que nous puissions la nier. Confessons la part que nous y avons apportée. Mais n'ajoutons pas à nos péchés la négation que la grâce et la puissance de notre Seigneur puissent nous atteindre dans notre ruine. Ne l'abandonnons pas, lui, la source des eaux vives, pour nous creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Nous n'encourageons aucunement les prétentions ecclésiastiques. Nous en avons plutôt horreur. Une position et un esprit humble sont ce qui nous convient au vu de tous nos manquements. Ce que nous affirmons, c'est la toute suffisance du nom de Jésus pour tous les besoins de l'Église, dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Au temps des apôtres, ce nom avait un pouvoir suprême. Ne l'aurait-il plus maintenant? Ce nom glorieux aurait-il subi quelque changement? Non. Eh bien donc, il est suffisant pour nous en ce moment. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous confier pleinement en lui, et par conséquent, de nous détourner complètement de tout autre objet sur lequel on pourrait envisager de mettre sa confiance. Le Seigneur Jésus a dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. Il est descendu au plus petit nombre possible, à la plus petite forme de l'assemblée. Cette parole est-elle encore vraie pour nous? Lecteur chrétien, donnons notre cordial assentiment à cette vérité éternelle. La toute suffisance du nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'assemblée de Dieu, dans toute condition où elle puisse se trouver, durant tout le cours de son histoire. N'envisageons pas ceci simplement comme une théorie vraie, mais vivons-le en pratique, et alors, assurément, nous goûterons la profonde bénédiction de la présence de Jésus ici-bas. Bénédiction qui doit être goûtée pour être connue, mais qui, étant une fois réellement goûtée, ne peut jamais être oubliée ou mise de côté pour quoi que ce soit. Guerrier, ouvrier et adorateur. En considérant l'assemblée d'Israël au désert, nous la voyons composée de trois éléments distincts, des guerriers, des ouvriers et des adorateurs. Il y avait un peuple de guerriers, une tribu d'ouvriers, une famille d'adorateurs ou sacrificateurs. Nous avons jeté un coup d'œil sur les premiers et nous avons vu chacun d'eux selon sa généalogie, prenant sa place sous sa bannière, conformément à l'ordre de l'Éternel. Nous nous arrêterons maintenant sur les seconds et nous les suivrons dans leur œuvre et dans leur service. Les familles des Lévites et leur service. Les Lévites sont clairement distingués de toutes les autres tribus. Ils avaient une place et un service très particuliers. Voici ce que nous lisons à leur sujet. Mais les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent pas dénombrés parmi eux. Car l'Éternel avait parlé à Moïse disant « Seulement, tu ne dénombreras pas la tribu de Lévi, et tu n'en relèveras pas la somme parmi les fils d'Israël. Et toi, tu préposeras les Lévites sur le tabernacle du témoignage, et sur tous ses ustensiles, et sur tout ce qui lui appartient. Ce seront eux qui porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service, et camperont autour du tabernacle. Et quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront, et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera mis à mort. Et les fils d'Israël camperont chacun dans son camp, et chacun près de sa bannière, selon leurs armées. Et les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin qu'il n'y ait point de colère sur l'assemblée des fils d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Nombre 1, versets 47 à 53. Nous lisons encore « Mais les Lévites ne furent pas dénombrés parmi les fils d'Israël, ainsi que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Chapitre 2, verset 33. Mais pourquoi cette tribu était-elle spécialement désignée entre toutes les autres? Y avait-il en eux quelque sainteté ou quelque bien particulier? Non, certainement. Comme nous pouvons le voir dans ces paroles de Jacob, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme n'entre pas dans leurs conseils secrets. Ma gloire ne t'unit pas à leur assemblée. Car dans leur colère ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, et je les disperserai en Israël. Genèse 49, versets 5 à 7. Tel était Lévi, volontaire, violent et cruel. Qu'il est remarquable qu'un tel homme, et avec lui sa tribu, soit choisi et élevé à une position si privilégiée. Nous pouvons bien dire que c'était la grâce du commencement à la fin. La grâce descend dans les plus profonds abîmes et y recueille ses plus éclatants trophées. L'apôtre Paul en est un exemple admirable. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. 1 Timothée 1, verset 15. À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. Éphésiens 3, verset 8. Jacob a dit pourtant, « Mon âme n'entre pas dans leur conseil secret. Ma gloire ne t'unit pas à leur assemblée. » Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal, et il ne peut pas regarder l'iniquité. Dieu ne pouvait entrer dans le conseil secret de Lévi, et il ne pouvait se joindre à sa compagnie. C'était impossible. Dieu ne pouvait rien avoir à faire avec la propre volonté, la violence et la cruauté. Mais il pouvait cependant introduire Lévi dans son conseil à lui et le joindre à son assemblée. Il pouvait le faire sortir de sa demeure, où il y avait des instruments de cruauté, et l'amener dans le tabernacle pour y être occupé des instruments sacrés qui s'y trouvaient. C'était la grâce, la libre et souveraine grâce. Et c'est dans cette grâce qu'il faut chercher la base de tout le service de Lévi. Quel merveilleux contraste entre la position de Lévi par nature et sa position par grâce, entre les instruments de cruauté et les vaisseaux du sanctuaire, entre le Lévi du chapitre 34 de la Genèse et celui des chapitres 3 et 4 des Nombres. La purification des Lévites. Mais examinons la manière dont la tribu de Lévi fut amenée dans une telle position de bénédiction. Un passage du chapitre 8 va nous initier au secret de tout le sujet. Nous y verrons que rien de ce qui était de l'homme naturel ne pouvait être toléré, et cependant, nous trouvons là le complet déploiement de la grâce régnant par la justice. Nous parlons du type et de sa signification, et non pas de la mesure dans laquelle les Lévites pouvaient comprendre ces choses. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends les Lévites du milieu des fils d'Israël, et purifie-les, et tu leur feras ainsi pour les purifier. Tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification du péché, et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, et ils laveront leurs vêtements, et se purifieront. » Chapitre 8, versets 5 à 7. Ici, nous avons en type le principe divin de la purification. C'est l'application de la mort à l'homme naturel et à tous ses penchants. C'est la parole de Dieu agissant sur le cœur et sur la conscience d'une manière vivante. Remarquons la double action présentée dans ce passage. Moïse devait faire aspersion sur eux de l'eau de purification, et ensuite, ils devaient se raser tout le corps et laver leurs vêtements. Il y a là une grande beauté et une grande précision. Moïse, comme représentant des droits de Dieu, purifie les Lévites conformément à ses droits. Eux, étant purifiés, sont capables de faire passer le rasoir sur leur chair et ce qu'elle produit. Et ils peuvent laver leurs vêtements, ce qui représente, sous forme symbolique, la purification de leurs habitudes extérieures, selon la parole de Dieu. L'eau pure et le rasoir tranchant doivent être mis en usage, et leur action doit s'opérer pour que les Lévites soient rendus propres à s'approcher des ustensiles du sanctuaire. Il en est ainsi dans tous les cas. Il n'y a, et il ne peut y avoir aucune place pour l'homme naturel dans le service de Dieu. Il est inutile d'essayer de l'améliorer ou de le discipliner. Ce n'est pas une amélioration, mais la mort qu'il faut. Il est de la plus haute importance de saisir cette grande vérité pratique. Dieu a clos l'histoire de l'homme, il y a mis fin dans la mort de Christ. Le premier grand fait que le Saint-Esprit met sur la conscience humaine, c'est que Dieu a prononcé son verdict solennel contre l'homme. Et il faut que chacun accepte ce verdict contre lui-même, personnellement. La question n'est pas de savoir si nous voyons ou sentons que nous sommes mauvais. Le fait est que Dieu a prononcé son jugement et que notre premier devoir est de nous incliner devant lui. C'est un premier pas dans le sentier de la sagesse que de se soumettre à cette appréciation. Tout cela est représenté en type par l'action de l'eau et du rasoir. Ces actions font ressortir la vérité solennelle de la sentence de mort prononcée contre la nature humaine et l'exécution du jugement sur tout ce qu'elle produit. Quelle est la signification de cet acte initiateur du christianisme, le baptême ? C'est précisément que notre vieil homme, notre nature déchue, est complètement mis de côté et que nous sommes introduits dans une position entièrement nouvelle devant Dieu. Et que représente pour nous cet acte de se raser tout le corps C'est un sévère jugement journalier de soi-même. C'est l'impitoyable dépouillement de tout ce qui provient de notre vieille nature. C'est là le vrai chemin qu'ont à suivre tous les ouvriers de Dieu. En conclusion de ce que nous venons de considérer concernant les Lévites, nous pouvons dire que la grâce brille dans leur appel et la sainteté dans leur purification. Ils furent appelés à l'œuvre selon les richesses de la grâce divine, mais ils furent rendus propres pour l'œuvre selon les droits de la sainteté de Dieu. Il doit en être ainsi de tous les ouvriers de Dieu. Nous ne devenons capables d'accomplir l'œuvre de Dieu que si l'homme naturel est placé sous la puissance de la croix et du jugement de soi-même. La volonté de l'homme ne peut jamais être utile au service de Dieu. Il faut qu'elle soit mise de côté si nous voulons accomplir un vrai service. Combien il y a de choses qui passent pour être le service et qui, jugées à la lumière de Dieu, ne sont que le fruit de la volonté humaine. À cet égard, nous ne pouvons exercer une censure trop sévère sur nous-mêmes. Le cœur est si trompeur que nous pouvons nous imaginer que nous faisons l'œuvre de Dieu, quand, en réalité, nous ne faisons que nous complaire à nous-mêmes. À moi, quiconque est pour l'Éternel. Avant d'examiner en détail l'œuvre et le service des Lévites, arrêtons-nous quelque peu sur la scène présentée en Exode 32, dans laquelle ils remplissent un rôle très remarquable. Nous trouvons là le triste épisode du veau d'or. Pendant l'absence de Moïse, le peuple avait perdu si complètement de vue Dieu et ses ordonnances qu'il avait élevé un veau de fonte et s'était prosterné devant lui. Cette horrible action demandait un jugement immédiat. Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre, car Aaron l'avait livré au désordre, pour leur honte parmi leurs adversaires. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit « À moi, quiconque est pour l'Éternel !» Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse. Passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. » Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Et Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous une bénédiction. » Exode 32, versets 25 à 29. C'était un moment d'épreuve. L'appel était adressé au cœur et à la conscience. À moi, quiconque est pour l'Éternel. En d'autres termes, qui est pour l'Éternel? Rien ne saurait être plus propre à sonder le cœur. La question n'était pas « Qui est-ce qui veut travailler ?» Elle était beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus pressante. Il ne s'agissait pas simplement de savoir qui irait ici ou là, qui ferait ceci ou cela. Être pour l'Éternel suppose le renoncement à sa propre volonté, et c'est cela qui est essentiel au véritable ouvrier. Saul de Tarse était sur ce terrain quand il s'écriait « Que dois-je faire, Seigneur ?» Acte 22, verset 10. Quelle parole dans la bouche du volontaire, du violent et du cruel persécuteur de l'Église de Dieu. Qui est pour le Seigneur? Examinons-nous attentivement. Si nous sommes pour le Seigneur, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à nous arrêter ou à marcher, prêts à aller à droite ou à gauche, prêt à être actif ou à demeurer tranquille. La grande chose est celle-ci, l'abandon de soi-même au droit du Seigneur. C'est là un sujet d'une immense portée. Nous vivons en des jours où la volonté propre est extrêmement active. L'homme se glorifie de sa liberté, et cela apparaît d'une manière très marquée dans les affaires religieuses. Il en était justement ainsi dans le chapitre 32 de l'Exode, au jour du veau d'or. Moïse était hors de vue et la volonté de l'homme était à l'œuvre. On fit travailler le ciseau. Et quel fut le résultat? Un veau de fonte. Et quand Moïse revint, il trouva le peuple dans le désordre et dans l'idolâtrie. Alors surgit, pour sonder ce peuple, la question solennelle « Qui est pour l'Éternel ?» Ce qui mit les Israélites à l'épreuve. Or, il n'en est pas autrement de nos jours. La volonté de l'homme règne, et cela aussi en matière religieuse. L'homme se glorifie de ses droits, de sa liberté, de sa volonté et de la liberté de son jugement. C'est là une négation de la seigneurie de Christ. Tenons-nous sur nos gardes, veillons à prendre réellement le parti du Seigneur contre notre propre nature. Soumettons-nous à son autorité. Que notre seul but soit de faire la volonté de notre Seigneur. Qu'elle s'applique au camp d'Israël, au jour du veau d'or ou à l'Église aujourd'hui, la question est toujours « Qui est pour le Seigneur ?» Elle a une immense puissance pratique. Être réellement pour le Seigneur, c'est être prêt à faire absolument tout ce à quoi il trouve bon de nous appeler. Ainsi, dans le cas des Lévites, ils devaient tuer chacun son frère et chacun son compagnon et chacun son intime ami. C'était une horrible tâche pour l'homme naturel. Mais les droits de Dieu avaient été ouvertement et grossièrement foulés aux pieds. L'invention humaine avait été à l'œuvre, on avait employé le ciseau et on avait élevé un veau. On avait changé la gloire de Dieu en la figure d'un bœuf qui broute l'herbe. Voir psaume 106, verset 20. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient pour l'Éternel ont été appelés à ceindre l'épée. La chair pouvait dire « Non, soyons indulgents, compatissants et miséricordieux. Nous obtiendrons plus par la douceur que par la sévérité. On ne peut pas faire du bien aux gens en les frappant. L'amour a bien plus de puissance que la rigueur. Aimons-nous l'un l'autre. » Telles sont les pensées, vraies à leur place, que la nature pouvait suggérer. C'est ainsi qu'elle pouvait raisonner. Mais le commandement était clair et décisif. Que chacun mette son épée sur sa cuisse. L'épée était la seule chose qui pouvait servir lorsque le veau d'or était là. Parler d'amour dans un pareil moment, cela aurait été jeter par-dessus bord les justes droits du Dieu d'Israël. D'ailleurs, un serviteur n'a pas à raisonner, il doit simplement faire ce qu'on lui ordonne. Soulever une question ou avancer une objection, c'est abandonner la place de serviteur. Il pouvait sembler que c'était la plus affreuse tâche que d'avoir à tuer son frère, son ami et son voisin, mais la parole de l'Éternel était impérative. Elle ne pouvait être éludée. Et les Lévites montrèrent une prompte et pleine obéissance. Les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. C'est là l'unique et vrai sentier de ceux qui veulent être les ouvriers de Dieu et les serviteurs du Christ. Dans ce monde où la volonté propre domine, si le cœur est réellement soumis à l'autorité du Christ, il est en état de faire tout ce qu'il nous demande, de demeurer en repos ou d'aller en avant, de faire peu ou de faire beaucoup. L'alliance avec Lévi. Tel était le terrain qu'occupait Lévi. Remarquez le divin commentaire qui nous en est donné par le prophète Malachie. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon alliance subsiste avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je les lui donnai pour qu'il craignît. Et il me craignit et trembla devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. Il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. Malachie 2, versets 4 à 6. Remarquez encore la bénédiction que prononça Moïse. Et de Lévi, il dit, « Tes tumim et tes urim sont à l'homme de ta bonté, que tu as éprouvé à Massa, et avec lequel tu as contesté aux eaux de Mériba, qui dit de son père et de sa mère, « Je ne l'ai point vu », et qui n'a pas reconnu ses frères et n'a pas connu ses fils. Car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Éternel, bénis sa force, et que l'œuvre de ses mains te soit agréable. Brise les reins de ceux qui s'élèvent contre lui et de ceux qui le haïssent, en sorte qu'il ne puisse plus se relever. Deutéronome 33, versets 8 à 11. Il pourrait paraître dur et sévère de la part de Lévi de ne pas avoir eu égard à ses parents ou à ses frères. Mais les droits de Dieu sont souverains, et Christ, notre Seigneur, a prononcé ces paroles solennelles, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 26. Ces paroles nous font pénétrer dans le secret de ce qui se trouve à la base de tout vrai service. Cela ne signifie pas que nous devrions être sans affection naturelle. Une telle chose appartient moralement à l'apostasie des derniers jours. Voir 2 Timothée 3, verset 3. Mais quand on laisse les droits des affections naturelles intervenir comme obstacle dans le chemin du service pour Christ, quand le soi-disant amour de nos frères occupe une place plus élevée que la fidélité à Christ, alors nous sommes impropres au service du Seigneur et indignes d'être appelés ses serviteurs. Le principe moral qui rendait Lévi apte à être employé au service de l'Éternel, c'était le fait qu'il était rendu capable de mettre complètement de côté les droits de la nature et de donner en son cœur une place souveraine aux droits de l'Éternel. Que le lecteur chrétien y fasse bien attention. Il peut y avoir une foule de choses qui passent pour être le service, beaucoup d'activités, d'allées et de venues, d'actions et de paroles, et avec tout cela, il peut n'y avoir absolument rien d'un service véritable. Selon l'appréciation de Dieu, cela peut n'être que l'activité de la volonté. Ceci exige un sévère jugement de soi-même, dans la lumière de la présence de Dieu. Le vrai service ne consiste pas dans une grande activité, mais dans une profonde soumission à la volonté de notre Seigneur. Et si cette soumission existe, le cœur sera prêt à rabaisser les droits des parents, des frères et des enfants pour accomplir la volonté de celui que nous reconnaissons comme Seigneur. Nous devons aimer nos parents, nos frères et nos enfants. Il ne s'agit pas de les aimer moins, mais d'aimer Christ davantage. Il faut que le Seigneur lui-même et ses droits aient toujours la première place dans nos cœurs. Les liens des relations naturelles et tous les droits, les devoirs et les responsabilités qui naissent de tels liens auront toujours leur juste place chez ceux dont le cœur, l'esprit et la conscience sont sous le pouvoir régulateur de la vérité de Dieu. Rien ne doit enfreindre les droits fondés sur la parenté naturelle, si ce n'est ce qui est réellement dû à Dieu et à Christ. Il nous convient d'être très sûrs que nous avons bien et uniquement à cœur les droits de Dieu quand nous ne tenons pas compte des droits de la parenté naturelle. Dans le cas de Lévi, la chose était aussi claire que le soleil. Voilà pourquoi l'épée du jugement convenait à ce moment critique. La consécration des Lévites. Nous nous arrêtons maintenant sur la consécration des Lévites, en nombre 8, afin de pouvoir envisager le sujet dans son entier. C'est une véritable source d'instruction pour tous ceux qui désirent servir le Seigneur. Les Lévites devaient d'abord se laver et se raser. Nous en avons déjà parlé. Ensuite, ils prendront un jeune taureau et son offrande de gâteau de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un second jeune taureau pour sacrifice pour le péché. Et tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu réuniras toute l'assemblée des fils d'Israël, et tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les fils d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron offrira les Lévites en offrande tournoyée devant l'Éternel, de la part des fils d'Israël, et ils seront employés au service de l'Éternel. Et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites. Nombre 8, versets 8 à 12. Ici nous sont présentés les deux grands aspects de la mort de Christ. L'un de ces aspects nous est fourni par l'offrande pour le péché, l'autre par l'Holocauste. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces offrandes, ayant essayé de le faire précédemment dans les premiers chapitres de nos notes sur le Lévitique. Nous voulons seulement rappeler que, dans l'offrande pour le péché, nous voyons Christ portant le péché en son corps sur le bois et subissant la colère de Dieu contre le péché. Dans l'Holocauste, nous voyons Christ glorifiant Dieu, même en faisant la propitiation pour le péché. Dans le premier cas, c'est une expiation en rapport avec la profondeur des besoins du pécheur. Dans le second, c'est une expiation selon la mesure du dévouement de Christ à Dieu. Dans l'un, nous voyons la nature odieuse du péché. Dans l'autre, la valeur suprême de Christ. Or, les Lévites posaient leurs mains sur la victime pour le péché et sur l'Holocauste. Cet acte d'imposition des mains exprime le fait de l'identification. Mais combien le résultat était différent dans chaque cas. Lorsqu'ils posaient leurs mains sur la tête de l'offrande pour le péché, cela signifiait le transfert sur la victime de tout leur péché, de toute leur culpabilité. Et d'un autre côté, lorsqu'ils posaient leurs mains sur la tête de l'Holocauste, cela impliquait le transfert sur eux de toute l'acceptation et de toute la perfection du sacrifice. Naturellement, nous parlons de ce que le type exprime. Nous ne disons pas que les Lévites avaient l'intelligence de ces choses. Quant à nous, nous savons que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les offriras en offrande tournoyée à l'Éternel. Et tu sépareras les Lévites du milieu des fils d'Israël, et les Lévites seront à moi. Après cela, les Lévites viendront pour faire le service de la tente d'assignation, et tu les purifieras, et tu les offriras en offrande tournoyée, car ils me sont entièrement donnés du milieu des fils d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place de tous ceux qui ouvrent la matrice, de tous les premiers-nés d'entre les fils d'Israël. Car tout premier-né parmi les fils d'Israël est à moi, tant les hommes que les bêtes. Je me les suis sanctifiés le jour où je frappais tout premier-né dans le pays d'Égypte. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël. Et j'ai donné les Lévites en don à Aaron et à ses fils, du milieu des fils d'Israël, pour s'employer au service des fils d'Israël à la tente d'assignation, et pour faire propitiation pour les fils d'Israël, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu des fils d'Israël, quand les fils d'Israël s'approcheraient du lieu saint. Et Moïse et Aaron et toute l'assemblée des fils d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse touchant les Lévites. Les fils d'Israël firent ainsi à leur égard. Nombre 8, versets 13 à 20. Ce passage nous rappelle les paroles de notre Seigneur en Jean 17. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. » Versets 6 à 10. Les Lévites étaient la possession spéciale de Dieu. Ils prenaient la place de tous les premiers-nés en Israël, de ceux qui avaient été sauvés de l'épée du destructeur par le sang de l'agneau. Ils étaient, en type, un peuple mort et ressuscité, mis à part pour Dieu. Or, Dieu les offrait comme un don au souverain sacrificateur Aaron pour faire le service du tabernacle. Quel exemple de l'efficacité du sang de propitiation et de l'eau de purification! Ils étaient, par leur nature et par leurs œuvres, éloignés de Dieu. Mais le sang expiatoire, l'eau de purification et le rasoir du jugement de soi-même avaient fait leur œuvre. En conséquence, les Lévites pouvaient être offerts comme un don à Aaron et à ses fils et leur être associés dans le service du tabernacle. En tout ceci, les Lévites sont un type du peuple actuel de Dieu. Ceux qui forment ce peuple ont été retirés des profondeurs de leur dégradation et de leur ruine comme pécheurs. Ils sont blanchis dans le sang précieux du Christ, purifiés par l'application de la parole et appelés à l'exercice d'un jugement de soi-même habituel et sévère. Ils sont ainsi rendus aptes au service qui leur est confié. Dieu les a donnés à son Fils pour qu'ils puissent être ses ouvriers dans ce monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Jean 17, verset 6. Chose merveilleuse! Nous appartenons à Dieu et il nous a donnés à son Fils. Cela surpasse toute conception humaine. Nous ne sommes pas seulement sauvés de l'enfer. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, justifiés, acceptés. Mais nous sommes encore appelés à la noble charge de porter dans ce monde le nom, le témoignage et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là notre œuvre de vrai et fidèle Lévite. Comme guerriers, nous sommes appelés à combattre. Comme sacrificateurs, nous avons le privilège de rendre un culte. Mais comme Lévites, nous sommes responsables de servir. Et notre service consiste à porter, à travers le désert de ce monde, le témoignage de Christ, dont le tabernacle était le type. C'est pour cela que nous sommes mis à part. Le lecteur remarquera que c'est dans ce livre des Nombres, et là seulement, que nous sont donnés tous ces détails concernant les Lévites. Ce fait nous offre une nouvelle explication du caractère de notre livre. C'est en nous plaçant dans le désert que nous avons une vue exacte et complète des ouvriers de Dieu, comme de ses guerriers. Le service des Lévites. Examinons maintenant le service des Lévites tel qu'il nous est détaillé au chapitre 3 et 4 des Nombres. Et l'Éternel parla à Moïse disant, « Fais approcher la tribu de Lévi et fais-la se tenir devant Aaron, le sacrificateur, afin qu'ils le servent et qu'ils accomplissent ce qui appartient à son service et au service de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation, pour faire le service du tabernacle, et ils auront la charge de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui se rapporte au service des fils d'Israël, pour faire le service du tabernacle. Et tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui sont absolument donnés d'entre les fils d'Israël. » Chapitre 3, versets 5 à 9. Les Lévites représentaient l'assemblée entière des Israélites. Ceci ressort du fait que les fils d'Israël devaient poser leurs mains sur la tête des Lévites, comme ceux-ci posaient les leurs sur la tête des sacrifices. Chapitre 8, verset 10. L'acte de l'imposition des mains exprimait l'identification, de sorte que les Lévites offrent un aspect tout spécial du peuple de Dieu dans le désert. Ils nous le présentent comme une troupe d'ouvriers appliqués à leurs fonctions et non pas comme des travailleurs inconstants et irréguliers, courant ça et là et faisant chacun ce qui lui semble bon. Si les hommes de guerre avaient à montrer leur généalogie et à demeurer fidèles à leur bannière, les Lévites avaient à se réunir autour de leur centre et à accomplir leurs tâches. Tout était aussi clair et aussi déterminé que possible, et tout était sous l'autorité et la direction immédiate du souverain sacrificateur. Il est très nécessaire, pour tous ceux qui veulent être des ouvriers fidèles et des serviteurs intelligents, de bien prendre garde à cela. Le service des Lévites devait être réglé par le sacrificateur. La propre volonté n'avait pas davantage sa place dans le service des Lévites qu'elle n'en avait dans la position des hommes de guerre. Tout était divinement établi, et cela pouvait être ressenti comme un privilège par tous ceux dont les cœurs étaient dans un bon état. Pour celui dont la volonté n'était pas brisée, il pouvait sembler pénible et fastidieux d'être obligé d'occuper toujours la même position ou d'être invariablement engagé dans les mêmes travaux. Au contraire, quand la volonté est soumise et le cœur engagé, chacun peut dire « Mon sentier est parfaitement tracé, je n'ai qu'à obéir. » C'est ce qui a été supérieurement accompli par celui qui a été le seul parfait serviteur sur la terre. Il pouvait dire « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, verset 38. Et encore « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Mais il est un autre fait, digne d'attention, relativement aux Lévites. C'est que leur service avait exclusivement rapport au tabernacle et à ce qui en dépendait. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Il en est ainsi des chrétiens de nos jours. Leur affaire exclusive, c'est Christ et ce qui le concerne. Un vrai Lévite pouvait dire « Pour moi, vivre, c'est le tabernacle. » Et maintenant, un vrai chrétien peut dire « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Philippiens 1, verset 21. La grande question dans tout ce qui peut se présenter aux chrétiens est celle-ci. Puis-je joindre Christ à telle ou telle chose? Si je ne le puis, je n'ai absolument rien à faire avec elle. C'est la vraie manière de considérer les choses. Il ne s'agit pas de savoir si ceci ou cela est bien ou mal. Il s'agit simplement de savoir jusqu'à quel point cela se rattache au nom et à la gloire de Christ. Cela simplifie tout étonnamment, répond à 1000 questions et résout 1000 difficultés. Cela rend le chemin du chrétien fidèle aussi clair qu'un rayon de soleil. À chacun son ouvrage. L'œuvre de chaque Lévite était déterminée avec précision. Le fardeau que chacun avait à porter et le travail que chacun avait à faire était indiqué clairement. Le service du tabernacle s'accomplissait par le soin assidu avec lequel chacun s'attachait à la tâche qui lui avait été confiée. Il est bon de ne pas oublier cela. Nous sommes parfois disposés à rivaliser les uns avec les autres et ainsi à nous entraver mutuellement. Or, chacun de nous a sa propre ligne de conduite tracée par Dieu. Nous n'avons nul droit de choisir notre propre œuvre. Si le Seigneur a fait d'un homme un évangéliste, d'un autre un docteur, d'un autre un pasteur, s'il en a doué un autre pour l'exhortation, comment l'œuvre doit-elle se faire? Assurément, ce n'est pas par l'évangéliste essayant d'enseigner, et par le docteur essayant d'exhorter, ou par quelqu'un qui, ne possédant ni l'un ni l'autre de ses dons, essaie de les exercer tous deux. Non, chacun doit exercer le don qui lui a été conféré par Dieu. Sans doute, le Seigneur peut, quand il lui plaît, revêtir un même individu d'une variété de dons. Mais cela n'enlève rien au principe sur lequel nous insistons, qui est simplement celui-ci. Chacun de nous doit connaître le service qui lui a été imparti et s'y employer fidèlement. Dieu a ses tailleurs de pierre et ses maçons. L'œuvre avance par le travail de chaque ouvrier, s'attachant diligemment à son propre ouvrage. Si tous étaient tailleurs de pierre, où seraient les maçons? Celui qui cherche à imiter le don d'un autre fait tort à la cause de Christ et à l'œuvre de Dieu dans le monde. Que chacun soit content d'être précisément ce que son maître a fait de lui. C'est le secret d'une vraie paix et du progrès. Trois classes de Lévites. Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, disant : Dénombre les fils de Lévi selon leur maison de père, selon leur famille. Tu dénombreras tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Et Moïse les dénombra selon le commandement de l'Éternel, comme il lui avait été commandé. Ce sont ici les fils de Lévi selon leurs noms : Gershon, et Kehath, et Merari. Et ce sont ici les noms des fils de Gershon, selon leur famille, Libni et Shim'i. Et les fils de Kehath, selon leur famille, Amram, et Jitsehar, Hébron, et Uziel. Et les fils de Merari, selon leur famille, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur maison de père. De Gershon, la famille des Libnites et la famille des Shim'ites, ce sont là les familles des Gershonites, ceux d'entre eux qui furent dénombrés, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, ceux qui furent dénombrés furent 7 500. Les familles des Gershonites campèrent derrière le tabernacle vers l'occident. Et le prince de la maison de père des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Et la charge des fils de Gershon à la tente d'assignation était le tabernacle et la tente, sa couverture, et le rideau de l'entrée de la tente d'assignation, et les tentures du parvis, et le rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, et ses cordages pour tout son service. Chapitre 3, versets 14 à 26. Ailleurs nous lisons : Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Relève aussi la somme des fils de Gershon, selon leur maison de père, selon leur famille, tu les dénombreras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent au service pour s'employer au service, à la tente d'assignation. C'est ici le service des familles des Gershonites, pour servir et pour porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de tesson qui est sur elle, par-dessus, et le rideau de l'entrée de la tente d'assignation, et les tentures du parvis, et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, et leurs cordages, et tous les ustensiles de leur service. Tout ce qui doit être fait avec eux constituera leur service. Tout le service des fils des Gershonites, dans tout ce qu'ils portent et dans tout leur service, sera selon les ordres d'Aaron et de ses fils. Et vous leur donnerez en charge tout ce qu'ils doivent porter. C'est là le service des familles des fils des Gershonites à la tente d'assignation. Et leur charge sera sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Chapitre 4, versets 21 à 28. Voilà pour ce qui regarde Gershon et son œuvre. Lui et son frère Merari avaient apporté le tabernacle, tandis que Kehath était appelé à porter le sanctuaire, ainsi que nous lisons au chapitre 10. Et le tabernacle fut démonté, puis les fils de Gershon et les fils de Merari partirent, portant le tabernacle. Puis les Kehathites partirent, portant le sanctuaire. Et On, c'est-à-dire les Gershonites et les Mérarites, dressa le tabernacle en attendant leur arrivée, versets 17 à 21. Il y avait un lien qui unissait Gershon et Merari dans leur service. Quant aux fils de Merari, tu les dénombreras selon leur famille, selon leur maison de père. Tu les dénombreras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en service pour s'employer au service de la tente d'assignation. Et c'est ici la charge de ce qu'ils auront apporté, selon tout leur service à la tente d'assignation, les ais du tabernacle, et ses traverses, et ses piliers, et ses bases, et les piliers du parvis tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs cordages, tous leurs ustensiles selon tout leur service, et vous leur compterez en les désignant par nom les objets qu'ils auront charge de porter. C'est là le service des familles des fils de Merari, pour tout leur service à la tente d'assignation sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron le sacrificateur. Chapitre 4, versets 29 à 33. Tout cela était clair et distinct. Gershon n'avait rien à faire avec les ais et les piquets, et Merari n'avait rien à faire avec les tentures et les couvertures. Et cependant, ils étaient très intimement unis, comme ils étaient dans une mutuelle dépendance. Les ais, qui sont de grandes planches recouvertes d'or constituant la structure du tabernacle, et les bases n'auraient servi à rien sans les tentures, et celles-ci auraient été inutiles sans les ais et ses soubassements. Et quant aux pieux et aux traverses, on saisit l'importance qu'ils avaient pour relier entre eux les objets et pour maintenir l'unité du tout. Ainsi, tous travaillaient ensemble à un but commun, et ce but était atteint si chaque individu accomplissait fidèlement son propre travail. Si un Gershonite s'était mis dans la tête d'abandonner les tentures pour s'occuper des pieux, il aurait laissé sa propre tâche inexécutée et se serait mêlé de l'œuvre des Mérarites. Cela n'aurait produit que de la confusion. La soumission à l'ordre donné de Dieu. Il devait être très beau de voir les ouvriers de Dieu dans le désert. Chacun était à son poste et agissait dans la sphère qui lui était assignée. Dès que la nuée s'était levée et que l'ordre de démonter le tabernacle était donné, chacun savait ce qu'il avait à faire. Nul n'avait le droit de suivre ses propres pensées. L'Éternel pensait pour tous. Les Lévites s'étaient déclarés pour l'Éternel, ils s'étaient soumis à son autorité, et ce fait était à la base même de tout leur service dans le désert. Peu importe qu'un homme ait dû s'occuper d'un clou, d'une tenture ou d'un chandelier d'or, la grande question pour chacun était seulement « Est-ce là mon ouvrage ? Est-ce là ce que le Seigneur m'a donné à faire ?» Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il ne doit y avoir qu'une autorité, celle du Seigneur. Tous ont à se soumettre à lui. Il ne reste aucune place pour l'exercice de la volonté humaine. Il faut une volonté brisée. Il faut une adhésion de cœur à l'autorité de Dieu. Autrement, on en vient à l'état dont il est question dans le livre des Juges. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. L'homme qui fait simplement la volonté de Dieu, quelle qu'elle puisse être, marchera dans un sentier éclairé par les rayons de l'approbation de Dieu, et son œuvre sera rappelée au jour du tribunal de Christ. Mais outre la valeur morale toujours liée à l'accomplissement du devoir qu'on est appelé à remplir, il y avait aussi une dignité particulière à être engagé dans l'œuvre d'un Lévite. Même si cette œuvre ne consistait qu'à prendre soin de quelques pieux ou de quelques bases, tout ce qui se rapportait à la demeure de Dieu sur la terre possédait la plus haute valeur. Il était plus glorieux d'être un Mérarite, veillant au piquet du tabernacle, que de porter le sceptre de l'Égypte ou de la Syrie. Son travail était lié à la demeure du Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Ses mains maniaient des objets qui étaient les modèles des choses qui sont dans les cieux, des ombres des grandes choses à venir, des figures symboliques de Christ. Quelle que soit la mesure dans laquelle les Lévites pouvaient saisir la portée du service qu'ils accomplissaient, nous pouvons pourtant dire avec assurance que c'était un privilège très précieux que celui d'être admis à toucher, à manier et à porter à travers le désert l'ombre terrestre des réalités célestes. De plus, c'était une grâce spéciale d'avoir l'autorité de la déclaration « Ainsi a dit l'Éternel » pour toutes les choses auxquelles il mettait la main. Chaque membre de cette tribu d'ouvriers avait sa ligne particulière de travaux, tracée par la main de Dieu lui-même et surveillée par le sacrificateur. C'était là le secret de l'ordre pour tous ces 8580 ouvriers. Chapitre 4, verset 48. Et c'est encore le seul vrai secret de l'ordre. Pourquoi trouvons-nous tant de confusion dans l'Église? Pourquoi tant de conflits de pensées, d'opinions, de sentiments? Pourquoi tant d'opposition des uns aux autres? Simplement parce qu'on manque d'une soumission entière et absolue à la parole de Dieu. Notre volonté est à l'œuvre. Nous choisissons nos propres voies au lieu de laisser à Dieu le soin de les choisir pour nous. La pensée et la volonté de l'homme prennent partout, toujours, plus d'ascendant. Tel est plus que jamais l'esprit de ce siècle. Quel est le remède? La soumission. La soumission à quoi? Est-ce à ce qu'on appelle l'autorité de l'Église? Est-ce à la voix de la tradition, aux commandements et aux doctrines des hommes? Non, béni soit Dieu, ce n'est à aucune de ces choses. C'est à la voix du Dieu vivant, à la voix de l'Écriture sainte. Nous devons obéir, telle est la réponse à la volonté propre. Nous devons obéir à Dieu, telle est la réponse à tout assujettissement à l'autorité humaine en matière de foi. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voir Acte 5, verset 29. L'obéissance, la soumission, voilà ce qui, dans le désert, rendait le guershonite capable de veiller à ses peaux de tesson, rude et d'un aspect peu agréable. Voilà ce qui rendait le mérarite capable de prendre soin de ses pieux, si insignifiant en apparence. C'est aussi ce qui, de nos jours, rend le chrétien capable de s'appliquer au service auquel son Seigneur peut trouver bon de l'appeler. Même si, aux yeux des hommes, tel genre de service peut paraître rude, sans attrait, insignifiant, il nous suffit que notre Seigneur nous ait assigné notre poste. La valeur de tout ce qui a rapport à Christ. Notre service a d'autant plus de prix qu'il a de rapport avec la personne et la gloire de Christ. Souvenons-nous que tout ce qui se rapporte à Christ, à son nom, à sa personne, à sa cause ici-bas, est indiciblement précieux à Dieu. Cela peut être très petit au jugement de l'homme, mais qu'importe. Nous devons considérer les choses au point de vue de Dieu, nous devons les mesurer à sa mesure, qui est Christ. L'homme fait de son moi son centre, son objet, sa règle. Il estime les choses selon la mesure dont elles l'exaltent et favorisent ses intérêts. Il peut même se servir de la religion pour cela et en faire un piédestal pour s'élever lui-même. Il l'utilise alors comme un projecteur pour porter la lumière et attirer l'attention sur lui-même. Il y a un abîme entre les pensées de Dieu et celles de l'homme. Tout ce qui appartient à Christ est d'une importance et d'un intérêt éternel. Tout ce qui tient au moi disparaîtra et sera oublié. Lecteur, permettez-nous de vous poser cette question solennelle et pressante. Quel est votre objet? Est-ce Christ ou le moi? Soyez sincères devant Dieu qui scrute les cœurs, devant le Tout-Puissant qui voit tout. Dieu vous présente Christ en contraste avec tout le reste. L'avez-vous reçu? Est-il votre sagesse, votre justice, votre sainteté et votre rédemption? Pouvez-vous dire sans hésitation, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Est-ce là pour vous un point parfaitement réglé? Et s'il en est ainsi, faites-vous de Christ votre unique objet? Mesurez-vous toute chose par lui? Le service des Kehathites. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Relève la somme des fils de Kehath d'entre les fils de Lévi, selon leur famille, selon leur maison de père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en service pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. » C'est ici le service des fils de Kehath dans la tente d'assignation. C'est une chose très sainte. Et lorsque le camp partira, Aaron et ses fils entreront, et ils démonteront le voile qui sert de rideau, et en couvriront l'arche du témoignage. Et ils mettront dessus une couverture de peau de tesson, et étendront par-dessus un drap tout de bleu. Et ils y placeront les barres. Et ils étendront un drap de bleu sur la table des pains de proposition, et mettront sur elle les plats et les coupes et les vases et les gobelets de libation, et le pain continuel sera sur elle. Et ils étendront sur ces choses un drap d'écarlate, et ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y placeront les barres. Et ils prendront un drap de bleu, et en couvriront le chandelier du luminaire, et ses lampes, et ses mouchettes, et ses vases à cendres, et tous ses vases à huile, dont on fait usage pour son service. Et ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de tesson, et le mettront sur une perche. Et sur l'autel d'or, ils étendront un drap de bleu, et le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et y placeront les barres. Et ils prendront tous les ustensiles du service avec lesquels on sert dans le lieu saint, et ils les mettront dans un drap de bleu, et les couvriront d'une couverture de peau de tesson, et les mettront sur une perche. Et ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur lui un drap de pourpre. Et ils mettront dessus tous ces ustensiles dont on fait usage pour son service, les brasiers, les fourchettes, et les pelles, et les bassins, tous les ustensiles de l'autel. Et ils étendront dessus une couverture de peau de tesson, et y placeront les barres. Et lorsque Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le lieu saint et tous les ustensiles du lieu saint, lors du départ du camp, après cela, les fils de Gad viendront pour les porter, afin qu'ils ne touchent pas les choses saintes et ne meurent pas. C'est là ce que les fils de Gad porteront de la tente d'assignation. Chapitre 4, versets 1 à 15. Nous voyons ici quelle fonction sacrée était confiée aux Kéhatites. L'arche, la table d'or, le chandelier d'or, l'autel d'or et l'autel des holocaustes. Tout cela était l'ombre des biens à venir, le modèle de ce qui est dans les cieux. C'étaient des types de Christ dans sa personne, son œuvre et ses offices, comme nous avons essayé de le montrer dans les notes sur l'Exode, au chapitre 24 à 30. Ces choses nous sont présentées ici dans leurs vêtements de voyage, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi. À l'exception de l'arche de l'Alliance, toutes ces choses avaient alors la même apparence aux yeux de l'homme. On ne voyait qu'une grossière couverture de peau de tesson. L'arche, par contre, était recouverte au-dessus des peaux de tesson d'un drap de bleu. Le caractère entièrement céleste du Seigneur Jésus-Christ dans sa personne divine. Ce qui était essentiellement céleste en lui se manifestait toujours au dehors pendant son séjour ici-bas. Il fut constamment l'homme céleste sur la terre. Au-dessous du drap de bleu se trouvaient les peaux de tesson qui peuvent être regardées comme l'expression de ce qui garantit du mal. Quant à la table des pains de proposition, qui était un type de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa relation avec les 12 tribus d'Israël, il y avait d'abord un drap de bleu, ensuite un drap d'écarlate, et par-dessus tout, les peaux de tesson. En d'autres termes, il y avait ce qui était essentiellement céleste, puis ce qui représentait la splendeur humaine, et sur le tout, ce qui préservait du mal. Dans les plans de Dieu, les 12 tribus d'Israël doivent avoir un jour la suprématie sur la terre. En elles doit être réalisé le type le plus élevé de la splendeur de l'homme. De là, l'opportunité du drap d'écarlate sur la table des pains de proposition. Les 12 pains représentaient évidemment les 12 tribus. Les couvertures du chandelier et de l'autel d'or étaient identiques. Il y avait d'abord la couverture céleste, et ensuite, à l'extérieur, les peaux de tesson. Dans le chandelier, nous voyons Christ en rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit, dans sa lumière et dans son témoignage. L'autel d'or nous montre Christ et la valeur de son intercession, le parfum de ce qu'il est devant Dieu. Ces deux objets, pour traverser le désert, étaient enveloppés de ce qui était céleste et protégés au-dessus par les peaux de tesson. Enfin, quant à l'autel des reins, nous observons une particularité. Il était couvert de pourpre au lieu de bleu ou d'écarlate. Pourquoi cela? Sans doute parce que l'autel des reins préfigure Christ comme celui qui a souffert pour les péchés et qui doit, par conséquent, porter le sceptre de la royauté. Le pourpre est la couleur royale. Celui qui a souffert dans ce monde régnera. Celui qui a porté la couronne d'épines portera la couronne de gloire. Voilà pourquoi la couverture de pourpre convenait à l'autel des reins, car on y offrait la victime. Nous savons qu'il n'est rien dans l'Écriture qui n'ait sa signification divine, et c'est notre privilège, aussi bien que notre devoir, de chercher à comprendre le sens de tout ce que notre Dieu a écrit pour notre instruction. L'arche et l'autel d'airain devaient donc être enveloppés d'une manière différente des autres ustensiles du tabernacle. Nous pouvons être assurés que ces deux faits ont un sens pleinement spirituel. L'arche était la suprême manifestation de Dieu. Nous pouvons donc comprendre pourquoi elle devait, à la vue de tous, montrer ce qui était purement céleste. L'autel d'airain était la place où se jugeait le péché. Il était un type de Christ dans son œuvre, comme celui qui porte le péché. Il représentait jusqu'à quel point Christ s'est abaissé pour nous, et cependant cet autel d'airain était le seul objet enveloppé d'une couverture royale. Quelle sagesse infinie dans toutes ces belles distinctions! L'arche nous conduit à la place la plus élevée dans les cieux, et l'autel d'airain à la plus basse sur la terre. Ils occupaient les extrémités du tabernacle. Dans la première, nous voyons celui qui a glorifié Dieu, et dans le second, celui qui a été fait péché. Dans l'arche, on voyait d'abord ce qui était céleste, et ce n'était qu'en cherchant plus profondément qu'on apercevait la peau de tesson, et plus profondément encore ce voile mystérieux, type de la chair du Christ. Mais dans l'autel d'airain, la première chose qui frappait le regard, c'était la peau de tesson, et puis au-dessous la couverture royale. Christ nous apparaît dans chacun de ces objets, mais sous un aspect différent. Dans l'arche, nous avons Christ maintenant la gloire de Dieu. Dans l'autel d'airain, nous le voyons répondant aux besoins du pécheur. Mais le lecteur a-t-il observé que dans tout ce passage, il n'est pas fait mention de la cuve d'airain? Pourquoi est-elle omise au chapitre 4 des Nombres? La raison peut en être fondée tout à la fois sur la matière dont était faite la cuve et sur l'usage pour lequel elle était construite. La cuve avait été faite avec les miroirs des femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. Exode 38, verset 8. C'était sa substance. Quant à son but, elle était préparée comme un moyen de purification pour l'homme. Or, dans toutes ces choses qui composaient les fonctions et les charges spéciales des kéatites, nous voyons seulement les manifestations variées de Dieu en Christ, depuis l'arche qui était dans le lieu très saint, jusqu'à l'autel d'airain placé dans le parvis du tabernacle. Et comme la cuve n'était pas une manifestation de Dieu, mais un moyen de purification pour l'homme, on ne la voit pas, par conséquent, confiée à la surveillance et à la charge des kéatites. Mais il faut que nous laissions maintenant le lecteur méditer seul sur cette partie des plus profondes de notre livre. Ces trois divisions d'ouvriers, les Mérarites, les Guershonites et les Kéatites, quelle instruction ils nous donnent! Quel type nous avons là des différentes fonctions dans l'Église! Quelle profondeur de mystérieuse sagesse en tout ceci! Nous sentons profondément l'entière faiblesse et la pauvreté de tout ce que nous avons exposé sur cette division du volume inspiré. Toutefois, nous avons conduit le lecteur à une mine dont la profondeur et la richesse sont infinies, et il faut que nous le laissions y pénétrer par le secours de celui auquel la mine appartient et qui seul peut en dérouler les trésors.